Alors bonjour à toutes et à tous, toutes celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer en rentrant. C'est une bénédiction d'être là avec les frères et sœurs, mes amis chrétiens, de partager ce moment extraordinaire. Parce que si nous réalisions que celui dont on salue la présence parmi nous, qui l'a promise d'ailleurs, je suis là au milieu des deux ou trois rassemblés en son nom. C'est une répétition peut-être, mais ça vaut la peine de se le remémorer. Il y aurait de quoi trembler. Mais nous sommes entourés de l'amour d'un bien-aimé qui l'a prouvé qu'il nous aimait. Et d'une manière si magistrale, en se donnant lui-même, d'abord, au Gethsémané dans sa passion, lorsque l'angoisse était tellement terrible que la sueur de son front était des gouttes de sang. Alors que dire de Golgotha? Nous souvenons toutes ces choses. Mais dans le milieu, le frère qui prenait la parole avait l'habitude de dire « le meilleur est passé ». Le meilleur, c'est l'adoration, les chants de louange, l'expression de nos cœurs dans les prières adressées à notre Dieu, d'un même cœur, d'un cœur aimant, parce que le cœur qui est transformé maintenant n'est plus celui que j'avais avant 23 ans. Et le Seigneur m'a tellement aimé qu'il m'a fait de moi un de ses bien-aimés enfants. Alors nous allons commencer, si vous voulez bien, par un court moment de prière et demander au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, purifie mes lèvres afin que tout ce qui sera dit, si cela vient de mon cœur, de ton cœur, qui nous aime, parce que tu nous as laissé ta bonne parole, cette parole de vie, c'est que nous avions besoin et de direction afin de marcher dans le sentier qui mène la vie éternelle que tu nous as acquis à si grand prix. Merci Seigneur pour ta parole et la joie que nous avons d'apprendre à la connaître toujours mieux, celle de ta personne adorable qu'elle nous entretient tout au long de notre voyage terrestre, à toi la gloire et la puissance, jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de nous interroger sur une question qui est d'autant plus importante qu'elle est donnée trois fois dans l'Évangile. Qui peut être sauvé ? Ça m'a tellement interpellé que je me suis dit, il faut que nous mettions notre réflexion sur cette question-là. Ce qui paraît étrange dans la première alliance, c'est qu'il est écrit qu'il y a les 10 commandements. Qui sont plus exactement 10 paroles que l'Éternel a données à Moïse, l'occasion de donner à son peuple, le peuple choisi. Et ce peuple est choisi non pas parce qu'il était le plus grand, non pas parce qu'il était le plus excellent, mais le Seigneur lui-même dit parce que vous étiez le plus petit de tous les peuples et parce que je vous ai aimé. L'amour de Dieu se manifeste déjà là, pour des êtres qui sont dans l'esclavage depuis plus de 400 ans, et le Seigneur va les délivrer et les amener dans un pays qu'il a choisi pour eux. Alors, en principe, celui qui respectait ces 10 paroles de Moïse, devait avoir la vie. Venez à moi, dit le Seigneur, écoutez et votre âme vivra. Et en Ézéchiel 20, nous trouvons aussi ce texte, je leur donnerai, donner mes statuts, et leur fit connaître mes ordonnances, par lesquelles, s'il les pratique, un homme vivra. Alors on s'interroge pourquoi que ces personnes, les Israélites, viennent auprès du Seigneur et leur demandent. Je disais que cette question était dans les trois évangiles synoptiques. Qui peut être sauvé? Alors, dans l'évangile de Matthieu, celui de Marc, il s'agit d'un homme, d'un jeune homme, qui vient auprès de Jésus et qui lui demande, « Seigneur, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Un autre dit là, « Que ferai-je ?» ou « Que devrais-je avoir fait pour hériter de la vie éternelle ?» Et en Marc, c'est même quelqu'un, un jeune homme, qui vient près de Jésus, qui se jette à ses pieds, à genoux, se met à genoux devant le Seigneur et lui demande « Que faut-il que j'ai fait pour hériter de la vie éternelle ?» Et vous connaissez le texte, le Seigneur le répond à chacun, chaque fois. Tu connais les commandements, fais-les. Leur réponse, c'est pour celui de Matthieu, je les ai faits, les commandements. Que me manque-t-il? En Marc, il se jette à genoux, ce jeune homme, et il demande, il pose la même question au Jésus, et Jésus lui répond de la même manière. Tu sais les commandements. Sa réponse est que je les ai gardés dès ma jeunesse. Il nous a même souligné que Jésus, ayant entendu cela, regarda ce jeune homme et l'aima. Comment ne pas aimer quelqu'un qui suit les préceptes, les ordonnances, les commandements de notre Dieu et ses jugements? Comment ne pas l'aimer? Chaque mot de la parole de Dieu a son importance, même si ça nous paraît comme un détail. Et alors, en Luc, pareillement, il s'agit de l'homme, d'un homme du peuple, d'un chef du peuple. Vous lirez dans l'évangile de Luc qu'il s'agit, semble-t-il, de la même personne, mais les évangélistes ont cru bon de dire pour un jeune homme, pour un autre, un chef du peuple. C'est pas n'importe qui. Chef du peuple, il devait connaître presque la Bible entière par cœur, l'Ancien Testament, non. C'est élite. Un chef du peuple interrogeant lui dit, bon maître, que faut-il que j'ai fait pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, tu sais les commandements. Il lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et quand Jésus a entendu cela, il lui dit, une chose te manque. Et certaines traductions disent, une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et viens suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. Lui, ayant entendu ces choses, devint tout triste, car il avait de grands biens. Et certains évangiles disent, il était extrêmement riche. Cadeau. Avoir de l'argent, beaucoup d'argent, rend triste. On a demandé à un milliardaire en Amérique, vous êtes multimillionnaire, multimilliardaire. Que vous manque-t-il? Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Sa réponse a été un peu plus d'argent. Et la Bible dit, celui qui aime l'argent n'est pas l'habitude de me répéter souvent, mon fils, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, parce que de lui sont les issues de la vie. Et si mon cœur chérit quelque chose qui n'est pas selon la pensée de Dieu, en fait de richesse, vraiment, est-ce que je peux dire que j'ai quelque chose qui peut rassasier mon âme? Dieu raconte dans les évangiles sans complaisance la triste histoire de l'humanité, mais aussi la grandeur de Dieu, sa justice et sa bonté envers les êtres humains. Le Seigneur ne dit pas qu'il est impossible pour un riche d'hériter de la vie éternelle. Du reste, c'était une bénédiction pour les Israélites d'être très riches. Abraham ne l'était-il pas? Jacob ne l'a-t-il pas été? Et combien d'autres faisant partie du peuple de Dieu n'ont-ils pas eu beaucoup d'argent? Du reste, les Israélites sont réputés pour être riches. Et c'est ça qui chagrinait Hitler, notamment, qui a raflé toute la richesse des Juifs pour faire sa guerre. Mais être riche devient un obstacle majeur pour entrer dans le royaume de Dieu, qui est l'essentiel de la vie éternelle. Être le royaume de Dieu, c'est un territoire où règne un roi. Et le royaume de Dieu, le royaume des cieux, on a fait une méditation autrefois sur ces deux termes qui s'équivalent. Le royaume des cieux, ce serait peut-être plutôt pour la terre, parce que le Seigneur dit, le royaume de Dieu s'est approché, le royaume des cieux s'est approché, c'était lui qui était le royaume des cieux, il était le roi des rois. Il voulait se faire connaître de cette façon-là, mais il ne disait pas, il fallait, par l'Esprit Saint, discernant lui, qu'il était ce roi de gloire, le roi des rois. Alors, qui peut être sauvé? À l'inverse, on pourrait te demander qui ne peut pas être sauvé. Prenons trois exemples, celui de Judas Iscariote, celui de Saül et celui de Caïn. Judas Iscariote, dans l'évangile de Jean notamment, nous apprenons que c'était lui qui avait la bourse et qui recevait tout ce qu'on y mettait. C'était le ministre des Finances, la petite troupe qui suivait Jésus. Et alors nous connaissons sa réflexion. Lorsque une chère femme vient avec un vase plein d'un art pur de grand prix et le verse sur la tête ou sur les pieds du Seigneur, selon l'Évangile, il n'est pas d'accord. Il dit, c'est un grand prix, il aurait pu être vendu et distribué aux pauvres. Ça ne le concernait pas, puisque ça n'entrerait pas dans son escarcelle, la valeur de son art pur. Et il connaissait la réflexion du Seigneur. Laisse-lui l'occasion d'avoir anticipé cela pour ma sépulture. Embaumé à l'époque, c'était réservé à des personnes de haut rang. Et cette femme accomplissant la volonté de Dieu a répandu ce parfum sur la tête de Jésus. Quelle belle parole que la parole de notre Seigneur. Qu'est-ce que je donne à mon maître qui a tout donné pour moi? Jusqu'à sa précieuse vie pour me sauver, n'est-il pas digne en retour que je lui donne tout? Est-ce que ce cantique est pour moi aussi? Seigneur, prends tout. Et fait remarquer ça à un de nos frères qui était quelqu'un de très haut placé dans, au niveau de la parole annoncée, la parole du Seigneur, autant dans l'évangélisation que dans l'encouragement pour les assemblées. Et je lui disais, mon cher frère, c'est aussi pour toi ça, c'est aussi pour moi. Le Seigneur prend tout. Il s'est trouvé que quelques années plus tard, il a tout perdu. Un incendie a ravagé sa maison, il a pu sauver juste son ordinateur, dans lequel il avait toutes ses consignes, et toutes ses méditations, et tout ce qu'il avait préparé pour le service du Seigneur. Je pense que ça l'a marqué d'une telle profondeur que, à peu près comme à l'instant de Job, le Seigneur lui a rendu bien au-delà de ce que l'incendie lui avait fait perdre. Quelle fidélité que notre Seigneur! Il est le même, il ne change pas. Pour vous comme pour moi, mes amis, comme pour quiconque croit en lui et met sa confiance dans le Seigneur. Revenons un peu à Judas lors de la première fête de Pâques qui est célébrée par le Seigneur, comme on le sait, et qui est rapportée dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. La réponse de Jésus lorsque l'apôtre Jean lui demande « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» La réponse du Seigneur, c'est celui à qui je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Il me semble que c'est le repas de Pâques que le Seigneur a fort décidé de partager avec ses disciples. Parce que lors du repas de Pâques, qui est un repas excellent, que le Seigneur partage pour une dernière fois ou une première fois avec ses disciples, le Seigneur trempe un morceau et le donne à Judas, c'est celui à qui je donnerai le morceau. Et après avoir reçu le morceau, l'Évangile nous dit que c'est en Matthieu qu'on trouve ça. Après avoir reçu le morceau, le diable entra, Satan entra en lui. Et étant sorti, parce que le Seigneur lui a dit, ce que tu fais, fais-le promptement, fais-le vite. Il fallait arriver son maître, il fallait aller retrouver la troupe, des pharisiens, des religieux de l'époque, des soldats, de la troupe qui devait venir prendre Jésus. Il fallait que ce soit le traître qui le désigne parce qu'on ne savait pas qui il était. On faisait semblant de ne pas savoir qui il était pour certains. Conséquent, je ne pense pas que Judas ait eu l'occasion de prendre la scène lorsqu'il a été institué par la suite pour le Seigneur. Ce n'est peut-être pas dit formellement dans les évangiles, mais d'après ce que nous pouvons en déduire, que ce ne serait pas juste de penser cela, que si quelqu'un est réputé comme ayant dans son cœur la présence de Satan, en votre appréciation. Vous connaissez la suite ? Quand Judas s'est aperçu que son maître était livré, il eut du remords. Du remords. C'est pas de la repentance. Mais il s'en alla et dit au souverain sacrificateur et aux pharisiens, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il a reconnu qu'il avait péché. Mais pas de la repentance. Ayant pris l'argent, ses 30 pièces, son évaluation pour le maître qu'il avait livré, il le jeta dans le temple et il s'en alla. Puis il se pendit. De même aussi, le roi Saül, le deuxième Le deuxième que je voudrais souligner devant vous, il est connu aussi comme étant celui que Samuel devait choisir pour le désigner comme le roi d'Israël. Alors il a commis deux fautes, deux désobéissances. Et nous savons qu'une désobéissance pour notre Dieu, c'est le péché. Parce que dans nos premiers parents, ce qui a introduit le péché dans l'humanité, c'est la désobéissance d'Adam et d'Ève. Pourtant, Ève était là quand le Seigneur a fait, quand Dieu a fait le coup biblique à Adam. Tu peux manger de tout fruit des arbres qui sont dans le jardin, mais celui qui est concernant la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu mourras, où tu pencheras, tu mourras. Il n'est pas mort physiquement tout de suite. Mais plus tard, même si ça, la longueur de son existence sur la terre était considérable. Saül a fait deux désobéissances. D'abord, présenter le sacrifice et bénir le sacrifice pour le peuple, c'était réservé aux prophètes. Le roi régnait. Il n'avait pas le droit d'exercer le rôle d'un sacrificateur. Comme c'est changé pour nous, mes chers amis. Et bien, nous dit que nous sommes rois et sacrificateurs. Le Seigneur a réuni les deux. Quelle excellente grandeur, ce Dieu désigne ses enfants qu'il a purifiés par son précieux sang pour effectuer cette double tâche d'être des rois. Il y en a que cela. Vous savez que vous êtes des princes, mes amis, en même temps des sacrificateurs qui ont le cœur purifié pour annoncer les louanges de notre Seigneur et le louer dans son Saint-Temple. Samuel est au courant de ce que Saül a fait. Et ça, son excuse, c'est le peuple se dispersait, alors j'ai cru bon de célébrer le sacrifice. C'était pour cela que le peuple était réuni et nous t'attendions, Samuel, toi le prophète, pour faire cet exercice-là. Réponse du prophète, tu as agi follement. Tu as agi follement. Et l'Éternel, ton Dieu, te l'avait ordonné, maintenant ton règne ne subsistera pas. Et l'Éternel désigne Samuel pour oindre un autre personnage à la place de Saül, qu'il rejette pour sa désobéissance. Et Samuel est désigné pour aller oindre David, un roi selon le cœur de Dieu, comme prince de son peuple. Ce qui va créer de l'irritation et de la mauvaise humeur, de la jalousie de Saül qui va poursuivre pendant des années ce jeune David, que le Seigneur désigne comme un roi selon son cœur. La seconde erreur de Saül se trouve dans le chapitre 15 de la première livre de Samuel. Le prophète déclare à Saül, va maintenant, frappe Amalek, et vous détruirez entièrement tout ce qui est à lui. Tu n'épargneras pas, tu feras mourir hommes, femmes, enfants, même nourrissons, et toutes les bêtes, tout le menu bétail et tout le gros bétail. Saül, au verset 9 de ce chapitre 15 de la première Samuel, Saül et le peuple épargnèrent Agag, c'est le roi d'Amalek, et le meilleur du menu et du gros bétail. Il ne voulait pas le détruire entièrement. C'était pourtant ce que Dieu lui avait dit de faire. Et la parole de l'Éternel vint à Samuel, dans la première Samuel, chapitre 15, verset 11, « Je me repens de mon établissé à Saül pour moi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté ma parole. » Et Samuel fut attristé, et l'Éternel, il cria à l'Éternel toute la nuit. Vous imaginez Samuel sur ses genoux toute une nuit pour prier l'Éternel parce qu'il était affligé de ce que Saül avait fait. Ses prières en faveur de Saül n'ont pas été faites pour le délivrer. C'est à chacun de prendre la responsabilité d'exercer une piété devant l'Éternel et de la conserver. Alors, verset 13 du même chapitre, Samuel va vers Saül et Saül lui dit, « Béni sois-tu de la part de l'Éternel, j'ai exécuté les paroles de l'Éternel. » Samuel lui dit, « Quel est ce bêlement de brebis que j'entends ? Ce beuglement des bœufs que j'entends ?» Et Saül lui répond, « Ils les ont amenés. » Ils les ont amenés. Le peuple, c'est le peuple qui est responsable pour moi. Ils les ont amenés de ce que l'Éternel m'avait commandé de faire. Pour le meilleur des troupeaux d'Amalek pour l'offrir à l'Éternel. Parce que le Seigneur le demande. C'est alors que Samuel envoie David pour roi sur Israël. Et comme vous le savez, David fut pourchassé pendant beaucoup d'années. Et la fin de Saül a été terrible. Il interrogeait l'Éternel et l'Éternel ne répondait pas. L'Éternel ne peut pas répondre à quelqu'un qui n'obéit pas à ses commandements. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà les Philistins qui se sont réunis pour attaquer Israël. Qu'est-ce que je dois faire? Samuel était mort. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller trouver une voyante qu'il avait quand même exterminée, une voyante. Lui, la parole de Dieu nous indique ça. Qu'il avait exterminé tous les 10 heures de mon aventure et les voyants. C'était un commandement de l'Éternel, il ne pouvait pas subsister ce genre de personnage dans le peuple de Dieu. Il va trouver une voyante, il se déguise, et lui demande, que dois-je faire? Fais-moi monter Samuel. Fais-moi monter Samuel de sa mort. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il a combattu contre les Philistins, il a perdu la vie. Il a été tué, et ses 3 fils, dont Jonathan, qui était un bien-aimé de David, un fils de Saül. Quelle triste épopée. Et enfin, peut-être Caïn, quelques mots concernant Caïn, qui après avoir tué son frère Abel, par jalousie, parce qu'il avait offert dans un élan qui paraît être intéressant, puisqu'il veut offrir à l'Éternel un sacrifice. Mais il offre à l'Éternel le meilleur des fruits de la terre. Une terre que l'Éternel avait maudite à cause de la désobéissance de l'homme. Et l'Éternel n'eut pas égard à l'offrande de Caïn. Par contre, Abel, qui avait appris que l'Éternel avait revêtu ses parents d'une peau de bête pour voiler leur nudité, lui a offert les meilleurs de son troupeau, des brebis de son troupeau. Quel est l'esprit d'Abel? Qu'est-ce qu'il lui a dit d'offrir ses agneaux en prévision de l'agneau de Pâques qui devait être livré et qui devait être notre sauveur? Le sauveur de l'humanité. C'est parlant, n'est-ce pas, la parole de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte, et ton désir sera tourné vers toi. et toi tu domineras sur lui. » Ce sont des paroles peut-être difficiles à comprendre. Tu n'as qu'à ouvrir la porte et le sacrifice pour le péché est couché à la porte. Un peu comme les animaux qui se couchent. Il suffit d'ouvrir la porte et le remède est à portée de main. Tu prends ce sacrifice que j'ai préparé pour ton péché, tu seras délivré. La réponse de Caïn, mon iniquité est trop grande pour être pardonnée. Tiens donc. Le Seigneur m'a tout pardonné, mes amis. Tout. Le Seigneur pardonne toute faute. Même les fautes énormes d'un David qui est pourtant celui que l'Éternel a choisi pour son peuple, comme roi. Le Seigneur lui a pardonné. Je vous le lisez le psaume 51. Et vous verrez là-bas comment notre Dieu est plein d'amour et de grâce pour pardonner même les fautes les plus ignobles. Mais il a prononcé lui-même sa sentence, puisque cet homme pauvre a reçu la visite d'un roi qui devait offrir un repas, il a choisi une brebis d'un homme pauvre, alors qu'il était lui un roi qui était capable d'avoir des milliers de bétail à offrir pour le repas. Il a fait cela, il a pris la brebis d'un pauvre, et bien il paiera quatre fois. Et David a payé quatre fois. Ses quatre fils sont morts. D'abord le fils qu'il avait engendré avec Bathsheba, et les trois autres. Et les trois autres fils. Trois autres fils. Adonija, je ne me reviens plus, mais Adonija, Absalom et Atoilem, Akashim. Mais l'Éternel l'a épargné, il lui a pardonné. Mes amis, je vous répète, s'il est nécessaire que le Seigneur pardonne toute offense, il m'a pardonné toutes mes iniquités. Alors, si hélas, nous laissons surprendre par une faute, quelle qu'elle soit, le Seigneur pardonne. Le Seigneur le pardonne. Je n'entre pas dans ce contexte d'une seule faute qui ne peut être pardonnée, c'est la faute contre l'esprit. Celui qui méprise l'Esprit de Dieu, qui le pousse à la repentance, ça ne peut pas être pardonné ça. Hélas. Alors, une dernière anecdote, c'est celle de Jorowitz, où Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Les pharisiens se prétendent fils d'Abraham. Comme la postérité de David, nous n'avons jamais été sous la domination de qui que ce soit. Tiens donc, les menteurs, ils ne sont pas sous le joug romain. Ne pensent-ils pas qu'ils attendent un Messie qui va les délivrer du joug romain? Nous n'avons jamais été les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui connaissaient la loi le mieux que quiconque. Le Seigneur répondit, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Moi, ce que je dis, je l'ai vu de mon Père. Vous, vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre Père. Parce qu'il n'hésite pas, ces pharisiens, de venir vers Jésus et de lui dire, nous avons pour Père Dieu. Et notre Seigneur n'a-t-il pas engendré par Dieu? Ils ne connaissent pas encore, ça n'est pas encore écrit, l'évangile de Matthieu, où l'ange vient dire à Marie, tu es choisi parmi toutes les femmes, tu es béni parmi toutes les femmes. L'Éternel t'a choisi. De ton sein naîtra celui qui sera appelé fils de Dieu. Il est bien né de l'Esprit Saint, puisque l'ange du tabagie qui s'interroge, ne demandait pas d'homme comment puis-je être enceinte. L'Esprit Saint est dans ses toits et de son ombre, celui qui sera engendré, elle l'a appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. Nous connaissons bien toutes ces choses. Mais il n'hésite pas de dire à Jésus, et de lancer à sa figure, nous ne sommes pas tels de la fornication. On connaît son père, on connaît sa mère, on ne connaît pas son père. Donc, c'est de cette façon-là qu'il devrait être né. Réponse du Seigneur. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi je procède de Dieu, et je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est le verset 42 du chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Et au verset suivant, le Seigneur leur dit, vous avez pour Père le diable. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Alors en conclusion, qui peut être sauvé? Vous connaissez l'Évangile, il suffit de recevoir l'Évangile, c'est Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 36, qui croit au Fils à la vie éternelle, mais qui ne croit pas, ou qui désobéit au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 5, 24, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il l'a. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Donc, croire d'abord, se repentir ensuite. Les deux choses essentielles. Et ce que les rabbins, à longueur de jour, annoncent au peuple actuellement, c'est Teshuvah, 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 faites Teshuvah, faites repentance, repentez-vous devant le Seigneur, suivez, ne suivez pas vos regards de convoitise, repentez-vous de toutes les fautes qui montent, tous les désirs insensés qui montent dans vos cœurs. Qu'est-ce que la repentance? C'est la volonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ça signifie un changement de pensée. Cela va plus loin que le remords, le simple regret. Il faut connaître dans son cœur qu'on a fait de mauvaises actions, qu'on a de mauvaises pensées, et se sanctifier pour Dieu. Croire à la puissance libératrice de son pardon. Il faut avoir conscience d'avoir été pardonné de toutes ses fautes. Il faut véritablement croire en Jésus. Et en fait, pourquoi l'apôtre Paul dit-il dans Romains 7, verset 14, au titre de captif de la loi du péché, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis de chair, vendu au péché. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je fais, c'est ce que je déteste. Misérable homme que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Croire que Dieu est puissant pour me pardonner de toutes mes fautes. Deuxièmement, venir à lui avec un sentiment de repentance. Alors, pour terminer, je vous dirai ceci. Parce que la parole de Dieu est souveraine. Et quand la L'apôtre Paul dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est vrai que nous demeurons pécheurs, mais la différence d'un enfant de Dieu et de quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que je ne pratique plus le péché. Je reste un pécheur, sauvé, par grâce, que le Seigneur se plaît à transformer encore. Prenez encore un peu de patience à mon égard, mes chers amis, parce que le Seigneur n'a pas fini de me transformer. Je suis un être fragile, un être d'argile, et le Seigneur me modèle pour que je sois davantage à son image. C'est le désir de mon cœur. Mais il m'ajoute deux versets plus loin que ce misérable homme que je suis, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Entendons bien la parole de Dieu et nous y faisons référence chaque fois qu'il a dans mon cœur quelque chose de l'ennemi se produit, une convoitise, quelle qu'elle soit. Pour terminer, je vous dirai que l'œuvre de la croix, dans l'œuvre de la croix, il y a assez d'amour pour combler notre manque d'amour. Dans l'œuvre de la croix, il y a suffisamment d'obéissance pour pardonner toutes nos désobéissances. Dans l'œuvre de la croix, il y a assez de souffrance pour apaiser toutes nos douleurs. Et notre prière sera la strophe, la première strophe du chant 299, « À toi la gloire », dont nous lirons la première strophe et nous chanterons, si vous voulez bien, la deuxième, la troisième et la quatrième.
Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme, de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout.